émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et nous voilà de retour en direct sur Radio Plus en ce mardi 20 novembre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Localement Plus, exceptionnel et spécial aujourd'hui. On revient sur la mobilisation des Gilets jaunes qui a démarré partout en France le 17 novembre. Et si vous étiez avec nous durant cette première partie d'émission, on est actuellement en train de vous parler justement de comment se sont déroulées les manifestations en ce samedi 17 novembre. Et on va tout de suite, sans plus tarder, retrouver Jean-Philippe qui était du côté de Vendin-le-Vieil. Cette fois.
Tout à fait. Alors samedi, vous le savez, j'ai fait plusieurs points de blocage hein, pour un petit peu me rendre compte de la situation. Et près du centre commercial Lens 2, j'ai rencontré Robert Bécard, qui est sapeur-pompier à la retraite et qui ne cache ni sa détermination ni ses inquiétudes.
Personnel, c'est le fait qu'il y a un ras-le-bol général qui s'installe sur le peuple français. Que l'on soit retraité, actif, on est envahi par l'impôt. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne pense qu'à nous imposer. Et on trouve ça... c'est plus que suffisant. Les gens n'arrivent plus à se faire plaisir. Ils n'arrivent plus à gâter leur famille. Et donc, il est hors de question qu'aujourd'hui, la France ne se mette pas en colère, que le peuple ne sorte pas dans la rue pour dire ce qu'il a à dire.
Qu'est-ce que vous pensez des dernières annonces du gouvernement concernant, par exemple, le fait de doubler la prime de conversion à partir de l'an prochain, etc.
Moi, je pense que ce gouvernement nous ment sans arrêt. Ce n'est pas un gouvernement auquel on peut avoir confiance. Et on en a marre. On en a vraiment marre. Il a été élu, Macron, d'accord. Mais ça aurait été un autre. J'aurais dit, monsieur le président, mais lui, aujourd'hui, non, c'est terminé. Nous, on pense que ce gouvernement nous ment sans arrêt. Et il n'est là que pour nous prendre notre argent et diminuer notre pouvoir d'achat.
Vous, concrètement, votre pouvoir d'achat, vous l'avez vu diminuer beaucoup ?
Mais bien sûr, à partir du moment où on est à un certain stade, c'est-à-dire pas les petites retraites, admettons 1500, 1000 euros par mois, mais comment ces gens, on se demande aujourd'hui, comment ces gens font pour vivre ? S'ils ont un loyer à payer, s'ils ont une voiture, s'ils ont toutes les charges attenantes à tout ça, comment font ces gens pour vivre ? Alors que eux, là-haut, là, les seigneurs de la République, se gavent, partent à la retraite au bout de 15 ans, avec des retraites extraordinaires, quoi. Ils n'ont pas, on a l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est que 1000 euros, quoi. C'est rien du tout, 1000 euros.
Votre mouvement, vous le différencieriez comment ? Il est apolitique, il est citoyen ?
Ah, il est citoyen.
Ouais.
Ah non, il n'est pas politisé du tout, il est citoyen. Moi, je suis sapeur-pompier. Là, on a des gens qui viennent d'un peu partout, des travailleurs français, qui en ont plus que marre de se faire plumer, quoi.
Et alors, justement, au niveau des gens qui sont mobilisés, vous êtes combien là, à être mobilisés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est quelques centaines.
D'accord.
Mais on est bien sûr répartis un petit peu partout et on vient s'aider. Là, il y a des gens qui reviennent de Liévin. Ils ont réussi à faire fermer quelques commerces. Et ici, on vient d'arriver il y a une heure et on provoque des petits ralentissements, mais on ne bloque pas, bien sûr. Et puis, on explique aux gens que le gilet jaune, c'est un signe de solidarité et qu'aujourd'hui, le peuple doit se révolter.
Est-ce que vous avez eu à faire face à des automobilistes mécontents ?
Oui, bien sûr. Des automobilistes mécontents, mais aussi nerveux, qui n'ont pas de patience, qui vivent dans leur bulle. Et qui s'en foutent un peu de ce qui se passe, quoi, apparemment.
Vous avez entendu parler de cette femme qui a été écrasée hein, par une automobiliste en Haute-Savoie, qui est décédée malheureusement. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est très douloureux de voir ça, parce que aujourd'hui, ne serait-ce que de s'arrêter avec sa voiture et de discuter pour savoir ce qui se passe exactement, même si elle a un rendez-vous avec son médecin, cette dame pouvait tranquillement s'arrêter et dire « Voilà, j'ai ma petite fille derrière. » qui est malade, je m'en vais chez le médecin et humainement on aurait laissé passer, il n'y a aucun souci. Donc c'est un signe de nervosité, encore une fois les gens ne pensent qu'à eux et c'est bien dommage pour cette dame qui a perdu la vie à cause d'un mouvement d'énervement, quoi.
Alors je reviens aussi de Meurchin, de Carvin, on sent qu'il y a des tensions à chaque rond-point bloqué en fait.
Oui, tout à fait. On s'aperçoit aussi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore que leur tour va venir et que si la solidarité ne s'installe pas en grand dans notre pays, eh bien c'est toujours les mêmes qui vont gagner, quoi.
Qu'est-ce qui permettrait, d'après vous, de débloquer la situation ?
Il faut que les seigneurs de la République, M. Macron et sa cour, comprennent que dorénavant, il faut arrêter tout ça. Parce que il y a énormément de gens qui n'en resteront pas là. Et colère grandissante va faire que, à un moment donné, la révolution va partir.
Vous pensez que c'est que le début ?
Moi, je pense que c'est que le début. C'est le début d'une révolution qui peut tourner très, très mal.
Donc ça fait partie de vos craintes aussi ?
Tout à fait.
Et donc, concrètement, c'est quoi ? C'est ce que vous demandez, c'est hausse de salaire, baisse de la TVA, par exemple ?
Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'un travailleur qui travaille au SMIC ne peut pas vivre décemment. Et si en plus on lui en reprend derrière, mais c'est terminé pour lui. Il est esclave de la République. Il est plus français avec la liberté de vivre en France, mais il est esclave de la République. Mais je comprends pas que ces gens-là qui sortent des grandes écoles, de l'ENA, etc., ne comprennent pas ce que le petit peuple subit et voit et pense tous les jours. Donc il faut bien sûr des hausses de salaire, et puis il faut arrêter de nous imposer. Il faut véritablement arrêter de nous imposer, quoi. Il faut nous laisser vivre.
Robert Vécart, sapeur-pompier, pardon, à la retraite, qui répondait à mes questions.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs, en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et des propos effectivement très durs hein, dans la bouche de Robert que l'on vient d'entendre. On va à présent faire une petite pause dans toutes ces réactions et dans le suivi des manifestations. On y reviendra en partant en direction de Libercourt dans quelques instants. Mais là, c'est Béthune que l'on va retrouver. On va s'intéresser, Jean-Philippe, aux revendications en cours des Gilets jaunes avec Aurélie, que tu avais interviewé d'ailleurs il y a quelques jours avant les manifestations.
Tout à fait. Aurélie, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous encore ce soir. Hein. On vous avait interviewé la semaine dernière, effectivement, pour que vous nous parliez de ce qui allait se passer à Béthune samedi, donc lors de votre mobilisation. Alors racontez-nous un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de cette journée de mobilisation de samedi et peut-être du week-end d'ailleurs ?
Alors le bilan, il est plutôt positif pour l'instant. Les blocages sont maintenus, le péage reste ouvert. Oui. Malgré les tentatives des CRS de nous faire partir, on revient à chaque fois. On va parfois sur d'autres points de mobilisation et puis on revient. On n'a pas vraiment le choix en fait. Si on veut rester mobilisé, il faut parfois céder pour éviter que le gouvernement prenne le dessus et puis revenir après.
Alors, comment vous qualifieriez le dialogue entre vous, Gilets jaunes, et les forces de l'ordre ?
En journée, ça se passe très bien. Ouais. On n'a aucun souci, ils sont même, ils ont mangé avec nous, ils ont pris le café avec nous, il n'y a aucun problème. Donc là, je parle uniquement des policiers qui font leur garde classique. Ouais. Après, en soirée, c'est d'autres personnes qui prennent le relais et là, en général, ça monte très très vite et on est obligé de partir.
D'accord. Alors comment ça se passe ensuite ? Vous réussissez à vous relayer, à reprendre les ronds-points comme on a pu nous le constater aussi à d'autres endroits ? Il y a beaucoup de dispersion et ensuite de tentatives de reprise des secteurs clés ?
Voilà, c'est ça, tout à fait. On se relaye jour, nuit, autant que possible avec le nombre de personnes mobilisées qui ont des obligations quand même aussi par rapport à leur travail ou par rapport à leurs enfants, hein, tout simplement. Mais on tient bon et on lâchera pas de toute façon et on continuera jusqu'à temps que le gouvernement puisse nous fournir une réponse concrète et non pas nous dire qu'il y a des projets sur 5 ans.
Quelle est votre réaction par rapport aux incidents qui ont lieu, notamment ce week-end et ces dernières heures ?
Alors, l'incident qu'on a eu sur Béthune était un incident volontaire venant de l'automobiliste, hein, il faut quand même le rappeler, une personne qui était sous l'emprise de stupéfiants, qui a quand même mentionné une phrase très particulière en disant « Vous avez déjà eu un mort en Savoie, vous en aurez un deuxième aujourd'hui ». Une phrase qui est quand même extrêmement grave... Dans les paroles d'une personne qui se sert de son véhicule comme une arme. Donc, en effet, il y a une personne blessée, mais très brièvement. Donc, tout va bien pour cette personne. On a pris des nouvelles tous les jours pour savoir comment ça se passait. Pour le reste, on n'a pas d'incident majeur à déplorer.
D'accord. Et par rapport au décès qui a eu lieu, Julien, c'était...
En Savoie.
En Savoie, hein, tout à fait. Hein. La personne qui est décédée, la manifestante qui est décédée.
Oui. Ah, malheureusement, c'est une dame, d'après ce que j'ai compris, c'est une dame qui aurait pris panique. Donc, malheureusement, ça peut arriver. Après, sur Béthune, on est en filtrant. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant que quand on se retrouve en plein milieu d'une centaine de gilets jaunes. Hein. Donc, oui. C'est vrai que nous, là-dessus, on n'a pas ce souci puisque nous, ils sont pas entourés. Ils sont pas entourés par les véhicules, ils sont simplement bloqués par des mesures de sécurité, donc des plots ou des barrières de sécurité. Donc c'est vrai qu'on n'est pas confronté directement à l'automobiliste et il n'a pas le temps de sortir de son véhicule parce que l'attente elle est assez brève quand même, quoi. Ils attendent 10 minutes, un quart d'heure maximum et on laisse passer les véhicules, voire par un ou par deux, mais voilà. Et après on a des mesures où les personnes qui ont des enfants en bas âge en véhicule ou des services de secours, des infirmières, etc., des AVS, tout ça peut passer rapidement parce qu'on a prévu des personnes qui font le tour des voitures à chaque arrivée de véhicule pour vérifier que voilà, s'ils ont quelque chose d'urgent à faire, ils puissent passer prioritairement sur la bande d'arrêt d'urgence. Pardon.
Aurélie, est-ce que vous pensez que le mouvement peut se durcir ? Est-ce qu'il est en train de se durcir d'après vous ?
On a monté un échelon, ouais, c'est sûr et certain. Ça commence à... En fait, je pense que la réponse du gouvernement qui a été faite hier a fait monter la pression énormément parce qu'ils se sont rendus compte que le gouvernement ne comprenait absolument pas nos attentes et que pour eux, on vit dans un monde de bisounours, là où tout va bien et là où les Français sont soi-disant à l'aise financièrement, ce qui n'est pas le cas du tout.
D'accord, donc les réponses actuelles ne vous satisfont pas, on l'a bien compris. La suite pour vous, pour votre mouvement sur Béthune, qu'est-ce que ça peut donner ?
Alors, on va monter à Paris le 24, hein. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de monter à l'Élysée. Il y a des bus qui se forment, il y a des voyages en train, du covoiturage qui est en train de se former, et le 24, on compte monter à l'Élysée.
D'accord, donc ça c'est ce qui est prévu autant pour vous sur Béthune que pour d'autres communes, d'autres gilets jaunes sur d'autres communes.
Tout à fait, c'est général. C'est un accord entre plusieurs groupes d'organisateurs.
Est-ce que vous avez été rejoint par d'autres personnes et également par des corps de métier et des corps intermédiaires aussi ? Est-ce que vous avez été approché par des syndicats, des partis, des choses comme ça ?
Malheureusement, oui. Ils ont tenté et ils ont vu que j'étais assez ferme là-dessus et que les gilets jaunes en général ne voulaient pas d'eux. Je les citerai pas, hein, parce qu'il y en a tellement que vous seriez étonnés, mais ils se sont présentés même sans étiquette. Il y en a certains qu'on connaissait déjà, donc on leur a dit qu'ils pouvaient venir en tant que citoyens, mais qu'il était hors de question qu'ils viennent avec une étiquette politique ou avec une étiquette de syndicat. Donc ils sont très rapidement repartis, je pense peut-être sur un autre point, mais en tout cas pas sur Béthune.
D'accord. En tous les cas, vous tenez à cette indépendance, qu'elle soit politique ou syndicale. Vous ne voulez pas donc de récupération à ce niveau-là. Hein.
Tout à fait. Le mouvement des Gilets jaunes, il est apolitique et il restera apolitique jusqu'au bout.
Très très bien. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour votre réaction en direct ce soir jusque Béthune. Du côté de la mobilisation de vos troupes, on va dire, c'est toujours autant motivé, il y a toujours autant de participants, c'est plus compliqué en semaine ?
Alors, c'est forcément plus compliqué en semaine vu qu'on a tous nos obligations personnelles au niveau travail et au niveau familial, mais ça reste mobilisé, on a encore du monde et...
Et on a perdu Aurélie, qu'on va retrouver ?
Oui, ça y est, on l'a retrouvé.
On l'a retrouvé. Oui, Aurélie, on laisse reprendre.
Oui ?
On vous laisse reprendre.
Oui, on a été coupé. Allez-y, je vous écoute.
Ah.
Oui.
Donc je disais, on est toujours aussi motivé qu'avant, surtout après la réponse du Premier ministre. Et donc il n'y a pas de souci, il y a encore des équipes sur place qui se relayent au maximum.
François, une question.
Alors, est-ce que vous sentez que le président se cache, vous oublie ? Est-ce que le gouvernement vous pense que vous oublie au niveau de...
Est-ce qu'une certaine ignorance ou un certain mépris quelque
part ?
Oui,
voilà, c'est ça, oui.
La question.
Voilà, c'est ça. J'allais dire, il ne nous oublie pas, il nous ignore. C'est encore pire, je pense, parce que le comportement hautain énerve les gilets jaunes à un point que vous n'imaginez même pas.
Vous pensez que le gouvernement joue quelque part un certain pourrissement, il parie là-dessus ?
En fait, il essaye de donner des excuses en disant qu'il a prévu des choses sur un terme de 4 ans, de 5 ans, de janvier. Il sort des dates qui ne répondent absolument pas aux besoins des Français au jour d'aujourd'hui. Et tant que la réponse, elle sera pas concrète, de toute façon, vous avez vu l'interview qui a été faite avec le Premier ministre. Il a évité à chaque fois le fait qu'il avait aucune réponse concrète. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il ne compte pas bouger. Donc l'énervement des Gilets jaunes va faire que s'accroître jusqu'à temps qu'on ait une vraie réponse et que les retraités puissent avoir une vie correcte, que les gens qui travaillent puissent avoir un minimum de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on en est à zéro.
Et dernière question de Julien, je crois.
Oui, on parlait justement du Premier ministre qui s'est entretenu cet après-midi avec les députés du groupe La République En Marche. Il a déclaré, le Premier ministre, je le cite, « Nous gagnerons collectivement par la cohérence, la constance et la détermination. Nous n'avons sans doute pas su occuper le terrain et répondre aux critiques. » Et Édouard Philippe évoque une discussion territorialisée sans plus de précision. Ça consisterait, d'après certaines sources, par des réunions avec les maires des villes pour savoir comment améliorer le quotidien des Français et échanger également avec les leaders syndicaux. J'imagine que ça n'est pas assez pour vous, Aurélie.
Ça n'est pas assez. En fait, c'est complètement... si au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là ne savent pas comment répondre et sont obligées d'aller voir les maires pour savoir où en sont les Français, c'est qu'il y a un problème au niveau du gouvernement qui vient de bien plus bas. Parce que, si aujourd'hui le gouvernement ne sait pas les problèmes qu'il y a en France, ça devient très très grave. Je sais qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais le problème des Français, il est général. On a plus de pouvoir d'achat du tout. Donc il sait très bien là où il peut aller et il sait très bien là où il peut trouver l'argent. La preuve, il a réussi à augmenter une prime de 2000 euros en une journée sur la prime pour les véhicules hybrides.
J'imagine que vous avez surtout peur pour l'avenir de la France, au niveau aussi l'avenir pour vos enfants, au niveau de cela.
Au niveau de nos enfants, mais aussi au niveau de nous. Enfin, moi, personnellement, j'ai que 33 ans. Je me dis que dans 5 ans, je vais finir par vraiment avoir des comptes dans le rouge tous les mois. Donc là, aujourd'hui, on est à zéro. Si on attend encore un peu, ça va être du découvert qui va enrichir les banques. Et puis, on va finir avec des découverts et ce sera un jeu sans fin.
Eh bien, merci beaucoup, Aurélie, pour votre témoignage. Et puis, évidemment, on vous souhaite bon courage pour la suite de ce mouvement. Bon, à très bientôt.
Merci à vous de relayer des vraies informations.
On fait ce qu'on peut, en tous les cas. On fait le maximum.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, on est toujours sur Radio Plus. En tous les cas, on va faire une courte pause, tout simplement. On va reprendre quelques annonces locales, quelques idées de sortie. On revient tout de suite ensuite sur notre sujet principal du jour, bien évidemment.
Au Centre culturel Dolto de Billy Berclos aura lieu du 28 novembre au 18 décembre une exposition de peinture et linogravure proposée par Marie Dubois. Le vernissage aura lieu le 23 novembre à 18h30. Renseignements directement auprès du Centre Dolto de Billy Berclos. Deux occasions de faire la fête pour la Saint-Sylvestre à Billy Berclos. C'est tout d'abord salle Edgar Bocquet avec le club de country au tarif de 60 euros, un menu boisson comprise. Renseignements, réservation 06 29 73 50 88. 06 29 73 50 88. Et puis le club Ken Boshinkai de Billy Berclos vous propose, lui, son réveillon dès 19h au tarif de 55 euros pour les adultes de boisson non comprise et 15 euros pour le menu enfant de moins de 13 ans. Réservation jusqu'au 20 décembre au 06 24 99 31 94. 06 24 99 31 94. Un week-end consacré à la Chine. Alors pas le pays, mais la brocante. C'est ce qui vous est proposé à Billy Berclos, à la salle des fêtes Edgar Bocquet, le week-end du 24 et 25 novembre. Le 24 novembre, ce sera une bourse multicollection qui vous est proposée. Tandis que le 25 novembre, ce seront les puces de la Saint-Nicolas. Ça se déroule donc, salle des fêtes Edgar Bocquet, de 9h à 16h les deux jours. L'entrée est gratuite. Renseignements 06 31 30 76 57, 06 31 30 76 57. Abilie Berclos, l'OMCA vous propose une visite du marché de Noël d'Amiens le samedi 1er décembre. Transport en bus grand tourisme, départ à 9h de la mairie de Abilie Berclos, retour prévu vers 20h. À l'aller, petit déjeuner offert, au retour, apéritif dînatoire offert, tarif de 20 à 25 euros. Renseignements 06 31 30 76 57, 06 31 30 76 57. Au profit du Téléthon, l'association Cap Vacances vous propose une soirée salle Roger Couder d'Auchel le 24 novembre à partir de 19h. Au programme, scène ouverte et karaoké en compagnie des artistes M7, Sarg et Jean-Luc Coez. Renseignements 06 09 18 76 77. Les bénéfices de la soirée seront reversés entièrement au profit du Téléthon 06 09 18 76 77.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs, en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et bien sûr, vous retrouverez le cours normal de vos idées de sortie dès demain dans la matinale Plus. Aujourd'hui, eh bien, les programmes sont un petit peu bousculés puisqu'on vous propose une émission spéciale consacrée à la mobilisation des Gilets jaunes jusque 19h. Et là, on va retrouver justement des réactions de manifestants. On repart du côté de Libercourt, Jean-Philippe, je crois.
Tout à fait, avec une cinquantaine de personnes qui bloquaient samedi en fin d'après-midi le dernier rond-point qui donnait l'accès à l'autoroute A1 avec notamment un message conséquence des incidents survenus samedi avec la mort, on l'a dit, hein, d'une manifestante en Haute-Savoie.
Il faut faire passer le message aux gens qu'il faut rester calme, tranquille, prendre son mal en patience, et puis c'est bénéfique à tout le monde. Ce sera bénéfique à tout le monde.
De toute façon, c'est pour tout le monde.
Voilà, voilà.
Mais nous, on défend les taxes sur l'essence, le gasoil, l'emploi. Dans les magasins, tout va flamber, le pouvoir d'achat, c'est zéro. Pour acheter un véhicule non polluant, bah. On fait comment? On est prêt à la ceinture, on n'arrive pas à finir les fins de mois. Hein, on fait comment? C'est pas avec ces 4000 euros et ces conneries qu'il nous a racontées qu'on va y arriver.
Sur une retraite de 1000 euros, on a 80 euros de CSG. Vous trouvez ça normal, ça?
Enfin, vous avez beaucoup perdu avec la réforme de la CSG?
Bah bien sûr, bien sûr.
Et le pouvoir d'achat, il baisse.
Macron ne se rend pas compte que nous, un litre d'essence, c'est énorme pour lui, qui a tout gratuit. C'est pas énorme pour lui. Mais nous, c'est très cher. Alors, s'il ne se rend pas compte que un litre d'essence, pour nous, ça représente énorme, on bouge. Comme là, il veut donner un petit peu d'argent pour les gens qui travaillent. C'est très bien. Ils vont avoir 30 euros, c'est très bien aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le week-end quand ils ne pourront pas sortir parce qu'ils n'auront pas assez d'argent pour sortir? Vous savez, c'est pas avec un petit truc qu'on va amorcer les gens. Hein. Vous savez, 30 euros pour vous, c'est peut-être beaucoup, mais dites-vous bien quand vous allez sortir le week-end, vous ne vaut pas vos 30 euros. Vous allez faire comment?
Ah, vous n'aurez pas,
vous n'aurez rien du tout. Si Macron n'a pas encore compris ça, ben qui se dit, j'espère que le peuple va se révolter. Et j'espère qu'il y aura tout le monde, plein de gilets jaunes partout. Partout. Et je l'espère. Et s'il faut attraquer les CRS, parce que ceux-là, ils vont nous le mettre devant nous. Et ben si l'armée vient, l'armée, j'espère qu'elle sera avec nous. Et pas à contre nous. C'est tout ce que je lui souhaite à ce Macron là-haut. Hein, qui se prend pour Dieu là. Vous savez, Dieu le Père là. Et ben celui-là, j'espère qu'il va en prendre plein sa pipe un jour qu'il y arrivera. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère qu'il l'entendra parce que ne le coupez pas ça. Hein, j'espère qu'il l'aura. Hein, d'accord, faites
passer. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a tous les jeunes réunis et les anciens, tout le monde est réuni.
Alors vous, en tant que jeune entre guillemets, du coup, pourquoi vous êtes mobilisé?
C'est pour tout. Il y a un ras-le-bol total. Un ras-le-bol total, on paye partout.
C'est-à-dire, expliquez-moi.
Il y a des taxes de partout, l'essence, c'est pas que l'essence. Là, ils ont fait les magasins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé le carburant pour augmenter les trucs qu'ils vendent à l'intérieur du magasin. Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change rien.
Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté ici?
Oui.
Encore la baisse de gasoil chez les fournisseurs en gasoil, elle ne s'est pas vue énormément. Hein. J'ai gagné 2 euros sur un plein hier soir. Pour que 2 euros, excusez-moi, mais c'est rien du tout, c'est dérisoire. Hein. C'est...
Vous tous qui êtes ici, vous êtes ici depuis quelle heure du coup?
Moi, je suis là depuis
ce matin et nous depuis ce midi, on est là.
9h à peu près.
Donc, et on va essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que.
Et on lâchera pas. Tant qu'on se fera pas entendre et qu'on n'aura pas ce qu'on veut, on lâchera pas. Et ça durera et on bloquera le pays et on fera ce qu'il faut.
Il y aura toujours quelqu'un qui va relever ceux qui sont là. Depuis un moment, il y en a d'autres qui vont venir.
J'espère que ceux qui vont nous aider, ça ne sera pas seulement qu'avec le gilet jaune sur le capot. Ça serait de venir avec nous Parce que manifester comme ça, tout le monde sait le faire. Moi, je mets ça à ma fenêtre et puis j'attends que tout le monde fait pour moi. Et c'est ce qu'ils font, les Français, à l'heure actuelle. Ils devraient bouger un petit peu leur derrière. Excusez-moi d'employer ce terme. Ils devraient bouger leur derrière. Oui.
Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation aujourd'hui ou est-ce que vous attendiez plus?
D'après ce qu'on entend, il y a pas mal de mobilisation, mais je pense que tout le monde devrait s'y mettre. Les jeunes, les vieux, les enfants, tout le monde devrait s'y mettre. Parce que de toute façon, c'est pour nos enfants qu'on fait ça. Nous, on s'en fiche. On a fait notre vie. Mais les enfants, comment ils vont faire l'année prochaine et encore les autres années suivantes? C'est de pire en pire. Tout le temps, c'est de pire en pire. Alors, il faut...
Est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi comment s'est formé le collectif ici?
Nous, on n'était pas là ce matin, donc on ne peut pas vous le dire, mais nous, on devait aller
sur l'appel.
Les réseaux sociaux.
Et en fait, nous, on devait prendre le train. Le train, on ne l'a pas eu. Il a été remplacé par un bus qu'on a raté.
Et la voiture, on s'est déplacé.
Voilà, on s'est déplacé, on a dit, on a vu le premier groupe, on a dit, voilà, on est dans un groupe. L'essentiel, c'est qu'il y ait beaucoup de groupes. Même s'ils sont petits, même s'ils sont plus grands, il devrait y avoir beaucoup plus de monde que ça.
Et surtout quand... Et qui va faire beaucoup pour la prochaine fois. Si c'est demain ou la semaine d'après, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Beaucoup. C'est ce qui compte pour nous d'ailleurs. Et pour eux.
Moi je pense qu'il faut absolument que tous les gens se mobilisent pour qu'ils se rendent compte. Parce qu'ils ont un peu peur quand même de la mobilisation. On le sent bien. Et je pense qu'au plus de monde il y aura de mécontents, qui montrent leur mécontentement, au mieux ça va. Bon, ils vont peut-être.
Monsieur Macron, voilà. Le 14 a fait peur à beaucoup de monde.
Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire non plus. Il ne faut pas que sous peine
c'est bien de. Je veux dire qu'il va nous envoyer les CRS. Eh ben, on va faire comme nos vieux dans le temps, hein, les affronter, hein, s'il faut en arriver là.
Moi,
je suis prêt là. Vous voyez, le premier CRS qui va arriver sur moi, s'il y a une matraque, j'y prends sa matraque, il faudrait sous la gueule aussi. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'en suis capable. Voilà, parce que moi, il y en a marre maintenant. Il y en a marre. En 95, on n'est pas passé privé au chemin de fer parce que justement, on était assez nombreux pour pouvoir le faire. Mais le jour où on passera privé, c'est fini, hein, votre billet à bas prix, là, hein, qu'on dit soi-disant bas prix, ça sera terminé. Hein. Ça sera des gens qui veulent plus du fric. Votre billet, comme il n'y aura plus qu'eux au monopole, eh ben, les prix vont flamber, comme sur les autoroutes au départ. Hein. Vous n'avez pratiquement pas payé. Hein. Maintenant, vous avez vu combien ils sont les autoroutes,
eh ben, ça sera. Les péages vont augmenter, effectivement.
Eh ben, le train, ça sera pareil. Hein. Les écoles, on veut supprimer tous les fonctionnaires. Quand il n'y en aura plus, qui est-ce qui va aller donner de l'argent pour mettre ses enfants à l'école? Qui est-ce qui a les moyens de le faire? Pas beaucoup. Alors ça sera quoi, nos enfants? Des analphabètes, c'est ce qu'il veut, qu'on soit toujours des analphabètes. Ben, je suis désolé, le
et
Macron, c'est un gros salopard. Voilà. Si c'est dire qu'on est des feignasses, coupez pas ça. Hein. Et ben, lui dit c'est un gros connard, un gros riche connard, c'est tout.
Et est-ce qu'il saurait vivre avec 1200 euros par mois?
Mais 1200, monsieur, 906 euros.
1200, c'est la moyenne, parce qu'eux, ils font une moyenne, c'est 1200 la moyenne.
Est-ce
qu'il saurait vivre et payer toutes les taxes et manger tous les jours à sa faim et tout? Non, mange des pâtes et les pâtes, on en a marre. Les contrôles techniques, ils ont flambé. La pollution va être renforcée alors qu'on passe des contrôles techniques et on a les vignettes critères à payer. Et ceci et cela. On bouge pas. Alors, c'est terminé. Maintenant, on va bouger.
Alors, vous l'avez entendu, hein, l'hostilité à Emmanuel Macron avec des propos qui n'engagent bien sûr que cette personne qui est un ancien cheminot, figurez-vous, qui a donc participé au mouvement très important de 1995. Il n'a pas caché son amertume et son dégoût des élites et des riches. Il m'a reparlé un petit peu plus tard lors de ses interviews.
Qu'est-ce que vous vous occupiez comme emploi?
Moi, en revanche, je travaillais à la SNCF.
À la SNCF, voilà. D'accord. Donc, en tant que cheminot
Comment?
En tant que cheminot?
Oui, bien sûr, à la SNCF, en tant que cheminot. Hein, et on disait toujours, les cheminots, ils gagnent bien leur vie. Et ben, moi, il y a des gens, vous savez, ils ont travaillé 33 ans, 40 ans à la SNCF. Vous savez combien ils gagnent? 1000 euros. Et ça, c'est un niveau 1. Et encore des fois, s'ils arrivent à les gagner. Hein. Alors, quand on dit que le cheminot gagne bien, mon œil. Moi, j'ai été chef d'équipe, vous savez combien je gagne maintenant? 1800. Pendant 25 ans passés, j'étais chef d'équipe avec plein de responsabilités de toutes sortes. Vous trouvez que ça normal? Un qui ne travaille pas, qui gagne 1200 euros. Vous trouvez ça normal? Et on dit que c'est normal qu'ils doivent vivre. Et moi alors? Moi, je n'ai pas donné assez, moi, de ma vie. 43 ans de ma vie à bosser. Vous trouvez que c'est normal? Alors, ce Macron qui dit que les vieux... j'ai peut-être un petit privilège, et encore. J'ai gagné ce privilège. Mais les vieux de maintenant, qu'est-ce qu'ils ont pour vivre? Rien. Ils sont en train de nous taper dessus et dire, bah, avec un bol de soupe, ça vous souvient pour le soir, avec un petit morceau de fromage? Bah, moi, on va lui donner ça à bouffer à celui-là. Hein, et on va voir ce que ça va donner. Non, mais attends, c'est beau de dire, les pauvres, ils gagnent bien, les vieux, les retraités. On va lui donner la même chose. Et puis, on va voir, au bout d'un an ou deux, s'il ne va pas perdre ses dents aussi. hein, comme notre président d'avant, les bouches-sordants, hein. Bah, il peut parler aussi, celui-là, hein, d'accord, tous ces mecs-là qui sont pleins de pognon, là, hein, qui manquent de rien, hein, c'est facile de dire, hein, il faut faire la ceinture, il faut faire la ceinture. C'est toujours les mêmes qui font la ceinture, on en a marre.
Alors évidemment, le cheminot donc que vous venez d'entendre évoquer à l'instant, François Hollande, hein, avec l'expression qui lui a un petit peu collé au basket pendant ces derniers mois de mandat, hein, les sans-dents, les fameux sans-dents, c'était une des expressions citées par François Hollande en privé et révélée par son ex-épouse. Alors toujours à Libercourt, réflexion intéressante bien sûr autour de l'écologie. Les Gilets jaunes affirment comprendre la nécessité de la transition écologique, comme à bien d'autres endroits, hein, mais estiment ne pas avoir suffisamment d'aide ou de revenus pour pouvoir l'assumer. On écoute tout de suite justement cet extrait.
On peut comprendre que c'est pour éviter la pollution, bon changement, mais il faudrait qu'on ait des aides. Mais quand on pense que par exemple les voyages et les transports en avion ils polluent beaucoup plus qu'une petite voiture qui va travailler le matin, prendre sa petite voiture, emmener ses enfants à l'école, ça pollue pas énormément. C'est les gros avions, les gros, hein, c'est ça qui pollue aussi beaucoup. Donc il ne faut pas toujours taxer les voitures. Les voitures, on est en grand nombre. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de solutions, mais il y a beaucoup de moyens pour réduire quand même cette pollution. Et c'est pas forcément la voiture. Hein. C'est pas forcément la voiture.
Et c'est pas la déblue qu'on met dans les moteurs, l'éolisme qu'on va faire baisser la pollution. Non, parce que c'est polluant ça. Déjà, c'est polluant à la base. Alors, on fait quoi? Donc, c'est une histoire de pognon. C'est une histoire, et toujours, on veut renflouer les caisses de l'État. Et son traduit.
Bien sûr, tout à fait.
Qu'est-ce qui ramène le plus, la cigarette et puis...
La cigarette et l'essence.
Ouais, bah. C'est ce qui rapporte le plus, d'abord.
Voilà donc différents témoignages, hein, autour du thème de l'écologie. Également le témoignage de Géraldine qui pense, elle aussi, qu'on pénalise trop une certaine catégorie de population qui a besoin de sa voiture pour se déplacer et qui n'a pas forcément les moyens d'en changer, et qui évoque également sa situation personnelle.
La personne qui a les moyens, elle ne se pose pas de questions. Elle a les moyens de se payer une voiture hybride, elle a les moyens, en plus de même, de bénéficier des primes qui sont offertes par l'État. Chose que nous, franchement, on n'a pas tout le temps le loisir de faire, malheureusement. C'est pas l'envie qui nous manque. Hein.
Là, un travailleur, voilà, il est obligé d'être solidaire. Monsieur, il est solidaire avec vous.
Je suis content de participer comme je peux avec vous. Et j'espère que ça va donner quelque chose, quoi, en fait.
Alors, voilà. Vous venez d'où?
Moi, là, je reviens de Paris. Là.
De Paris?
Ouais.
D'accord, et comment ça se passe sur Paris, alors?
C'est un peu le bordel pour... En direction de Paris, c'est un peu le bordel quand même. Et même moi, j'ai été bloqué 1h30 sur la France-Guyane. De toute façon, c'est normal, il faut bien faire quelque chose à un moment donné.
Votre prénom?
Denis.
Denis, d'accord. Merci Denis.
Merci Denis. Quand on sait ce qui se passe, vous savez, quand vous voyez qu'en même pas 10 ans, le nombre d'avions qui passent au-dessus de chez moi a été multiplié par je ne sais combien de multiplicateurs, hein, on peut dire.
Et sans être des compagnies françaises.
En plus, moi je peux vous assurer que la pollution, c'est pas nous, quoi. C'est pas nous. Nous, on l'a pas cherché, hein. On l'a pas cherché, hein. Aujourd'hui, on essaye de nous éduquer. Je pense que l'éducation, elle doit venir de bien plus haut que ça. L'éducation, elle est enracinée, mais là où elle a pas dû être, en fait. C'est eux, là-haut, qui devraient peut-être s'éduquer avant de nous éduquer, nous.
Vous pensez qu'il y a trop de mépris, d'en haut?
En fait, on nous met en garde aujourd'hui de choses qui ont existé depuis des décennies. Hein. Des décennies, c'est pas rien de le dire. Et malheureusement, nos parents ont travaillé, nos grands-parents ont travaillé. Les lois se sont instaurées. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis fière et je vais au vote. Jamais, pour rien au monde, je vais rater une urne. Parce que je sais que c'est un droit pour lequel mes grands-mères se sont battues. Hein. Donc, quelque part, je veux qu'on garde tous nos droits de citoyens. Qu'on nous écoute un petit peu. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens en colère. C'est vrai que c'est par petit à coup, ici, un peu à droite, un peu à gauche. Mais qu'au fil du compte, si on fait vraiment un bon calcul, je pense qu'il y a plus que 50% des Français qui sont mécontents aujourd'hui. Et il y a quelque chose à écouter. C'est la goutte, parce que ça faisait déjà longtemps que ça mijotait, à mon avis. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça mijote bien dans la tête des gens depuis déjà quelques temps. Mais à force de, plus ça. Vous savez, moi, j'ai une fille qui est étudiante. Elle se bat aussi tous les jours. pour payer un appartement. Elle travaille entre deux. L'année dernière, elle pouvait percevoir une aide auprès du Conseil général pour pouvoir payer sa mutuelle santé.
Conseil départemental du
Conseil
Nord
départemental,
du Nord ou du Pas-de-Calais
Du Pas-de-Calais.
D'accord.
Et aujourd'hui, je peux vous assurer que cette aide a disparu. Donc, c'était quand même une aide de 100 euros qui lui était allouée sur l'année totale. Aujourd'hui, cette aide n'existe plus. Donc, ces 100 euros, il faut qu'elle les trouve et qu'elle travaille. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de se trouver un petit contrat étudiant en plus de ses études. Elle arrive sur un master, c'est pas rien. Alors, lui, monsieur le président, il nous dit que, oui, ou quel que soit le politique, qui nous dit faut aller chercher les grosses têtes à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on a des meilleures têtes. Je suis désolée, il y en a aussi en France, mais il faut qu'on les aide. On a des bonnes têtes. Et donc, quelque part, si on ne leur donne pas les aides, si on ne les aide pas, forcément, c'est voué à l'échec. Ça décourage et ça démoralise les gens. Moi, aujourd'hui, je suis une diplômée, une diplômée de la fonction publique. Et
Vous travaillez dans quel domaine ?
Dans la santé. Donc, je suis auxiliaire de puriculture. Ouais. J'ai effectivement travaillé pour la fonction publique pendant quelques années. À un moment donné, M. Sarkozy est passé au président et il a dit « Attention, je vais toucher aux retraites et à toutes ces retraites entre... »
Les régimes spéciaux, c'est
ça ? Les régimes spéciaux. Donc j'ai sauté sur l'occasion à ce moment-là parce que moi je me suis retrouvée seule avec trois enfants en bas âge. Je me suis dit j'ai trois enfants, j'ai 15 années dans le privé, je vais prendre ma retraite pour m'occuper de mes enfants. Mais c'était uniquement dans ce but. Et je me suis dit, dès lors que mes enfants ont bien grandi, je vais pouvoir reprendre un emploi. Aujourd'hui, monsieur, je touche 600 euros par mois pour vivre. Et sur ces 600 euros, si je veux retourner travailler, je n'ai pas le droit de cumuler sur un an plus d'un tiers du montant de ma pension annuelle. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller chercher plus de 3000 euros par an en termes de salaire si je veux retravailler dans la fonction publique. Maintenant, je peux aller travailler dans le privé. Mais qu'est-ce qu'on me propose dans le privé ? On me propose quoi ? Un salaire au SMIC. Derrière, il y a 27 ans d'ancienneté, monsieur. En tout, hein. Donc, voilà.
Vous avez l'impression que la France est en train de devenir un pays de bas salaire ?
Un pays de bas salaire, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que quel que soit l'emploi trouvé et recherché, quel que soit et quoi qu'on veuille faire... tout est payé au ras des pâquerettes. Aujourd'hui, on est au ras des pâquerettes. Il n'y a rien au-dessus du SMIC. Rien au-dessus. Et si on pouvait faire en dessous, on le ferait encore, je suis certaine. Mais voilà, donc quelque part, oui, c'est un vrai ras-le-bol, monsieur. C'est ça plus ça, et on pense à nos enfants qui vont grandir. Moi, je me dis, ma fille qui est là, étudiante aujourd'hui, elle fait des hautes études, mais elle va avoir quoi comme salaire ? Même aujourd'hui, avec son niveau d'études, elle est en master. Quel que soit le boulot qu'elle trouve, c'est payé au SMIC. Et c'est des petits contrats. De quoi ? De 10-15 heures semaine. Selon moi, on arrive sur des familles aujourd'hui qui vivent dans la précarité. Tout le monde est obligé de faire attention. Attention, en fait, on calcule d'abord toutes les factures, tout ce qu'on a à payer pour ne pas se retrouver trop au rouge. Et en fonction de ce qu'on a, on se dit, t'as 1 ou 2 euros par jour pour vivre. Et donc, si on multiplie par 7 jours, on dit que c'est 7 euros par semaine. Si on multiplie par 15 jours, ça nous fait 15 euros. Et sur les 15 euros, on va au supermarché et on achète une grosse pièce, on la découpe, on met un congélateur, on essaye de faire des économies comme on peut. On achète encore des fruits secs, on fait la popote, on essaye de pas dépenser, tout simplement. Et de bien manger malgré tout, parce qu'on a besoin aussi d'une alimentation saine.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus.
Et le propos de Géraldine aurait pu encore être prolongé pendant une demi-heure, une heure, voire plus, puisque là, on était vraiment parti dans une très longue discussion. Alors, avant de vous donner la parole, Julien et François, je voudrais vous lire une info que je viens de trouver sur France Info, sur le site de France Info, nos confrères de France Info. Une analyse du chercheur Arnaud Mercier qui explique que les racines du mal sont profondes et que l'exécutif devrait se méfier davantage de ce mouvement s'il ne veut pas s'exposer à une jacquerie électorale, référence aux jacqueries, au mouvement qui avait lieu un petit peu avant la Révolution française.
Tout à fait, effectivement, Jean-Philippe. Et on n'a pas fini de parler de ce mouvement des Gilets jaunes qui risque bel et bien de durer. Alors, on vous propose à présent de parler du mouvement des Gilets jaunes toujours, mais cette fois-ci dans le Douaisis, en compagnie de François Grebez, qui est journaliste pour Douaisis Info, un portail d'information en ligne et animateur également de l'émission Hit Machine Plus sur Radio Plus. Alors, François, comment s'est passé pour toi ta journée de samedi, toi qui as couvert les mobilisations sur le Douaisis?
Oui, tout à fait, Julien. Alors voilà, depuis samedi, je couvre le territoire du Douaisis. Donc en fait, on constate déjà qu'il y a plus d'une dizaine de blocages filtrants. Les Gilets jaunes bloquent essentiellement les ronds-points, dont le plus actif est à Salle-Noble, près de Douai. Et cela juste à côté du centre commercial Auchan, qui a dû fermer le samedi toute la journée en raison de ces blocages. À l'heure d'aujourd'hui, les Gilets jaunes jouent un peu, qu'on veut dire, au chat et à la souris, avec les forces de l'ordre du côté de Somain, et bien entendu en ce moment même à Saint-Lenoble. Des barrages filtrants ont eu lieu depuis samedi, ainsi que des chauffourées dès le soir tombées par des individus qui sont non des Gilets jaunes, qui voulaient en découdre avec les CRS venus en nombre. Les Gilets jaunes prennent d'assaut les ronds-points de sortie d'autoroute de la 21. Trois zones de blocage sont concernées, les ronds-points de Pécancourt, Lalin et Somain. Un blocage avait également eu lieu le lundi près de l'usine Renault de Douai. Un barrage filtrant dont l'accès des fournisseurs au site a été refusé. L'usine Renault était contrainte à stopper l'activité toute la journée. Et donc la production a repris depuis ce mardi matin, selon le groupe Renault. Dans le Douaisis, on constate bien entendu une forte mobilisation de la part des Gilets jaunes. Plusieurs d'entre eux passent la nuit sur place. Donc chaque jour, à peu près une cinquantaine de Gilets jaunes viennent pour bloquer les accès stratégiques dans le territoire. Ils ont donc l'intention de continuer dans les jours à venir, annoncent les Gilets jaunes douaisiens.
Merci François. 18h41 sur Radio Plus, vous êtes toujours à l'écoute de cette émission spéciale jusqu'à 19h consacrée au mouvement des Gilets jaunes. On va s'intéresser justement à la perception du mouvement à présent. Ce mouvement qui est revendiqué comme étant citoyen, on l'a entendu dans les propos d'Aurélie tout à l'heure, non encadré par des organisations syndicales ou politiques. Les Gilets jaunes refusent d'ailleurs cette étiquette, et c'est un mouvement qui a quand même eu son lot de contestations. Il y a eu, vous l'avez entendu, beaucoup d'incidents sur les points de barrage, et si de nombreux barrages se sont déroulés dans une ambiance relativement bon enfant, parfois le ton est monté. Je vous propose justement un son d'ambiance pris à Hochelimine pour se rendre compte de la tension qui pouvait régner.
Depuis 3h du matin, je voudrais bien rentrer chez moi me reposer. On est d'accord ? Alors vous faites chier. Voyez,
c'est
Situation tendue, vous l'aurez compris, mais on trouve également chez les automobilistes bloqués des soutiens à ce mouvement. Je vous propose d'entendre le témoignage d'Alain de Hochelimine, qui, s'il ne bloquait pas et s'est retrouvé coincé dans ce barrage filtrant à Hochelimine, se sent tout de même concerné.
Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement ?
Bah moi, je trouve qu'ils ont raison, parce qu'on en a marre de payer au niveau du gasoil et l'essence, vous comprenez ? Mm-hmm. On en a ras-le-bol de toujours payer. Le Français est toujours en train de payer, et au bout du rouleau, on n'a rien. Alors c'est maintenant qu'il faut manifester aujourd'hui, de ce jour, vous comprenez ?
Pour vous, un budget essence au mois, ça représente à peu près combien ?
Oh, faut à 200 euros par mois à peu près. Ouais.
Vous-même, votre voiture, elle vous sert dans quel cadre ? Domicile-travail ?
Pour travailler tout ça.
Non, moi, je travaille plus. Hein.
Et vous travaillez à combien de kilomètres de votre domicile, monsieur ?
J'ai 10 km de chez moi. Ouais.
D'accord. Donc tous les jours, j'imagine, ça fait 20 km aller-retour ça grimpe vite.
Bah oui, mais non, il faut tous les 3 jours, faut faire le plein, alors c'est pas possible. Hein. Ah, et après, il faut manger, il faut penser à tout, hein, monsieur. Vous comprenez, ça sera de pire en pire. Hein.
Alors, il y a beaucoup de gens qu'on a interviewés sur Radio Plus qui nous disaient que le problème, oui, effectivement, il y avait aussi en partie l'essence, mais c'était surtout que justement, toute cette augmentation des taxes, etc.,
oui,
etc., ça a empêché aussi de pouvoir bien vivre, de pouvoir profiter au loisir. Vous partagez ce sentiment ?
On est obligé de faire des économies parce que bon, le véhicule est ton premier pour être travaillé, vous comprenez,
hein,
parce
qu'on n'a pas des gros salaires.
Ah oui, on gagne pas des millions. Hein.
Et pour vous, quelles sont les mesures que devrait prendre le gouvernement pour calmer la grogne ?
Bah moi, je pense que le gouvernement devrait baisser le gasoil et l'essence déjà de première main, déjà d'une chose tout de suite, hein, et puis après faire le restant aussi. Hein. parce que bon, tout est payant, vous savez. Parce qu'on paye le gasoil, l'essence, après ça sera ainsi de suite et ainsi de suite, hein, tout est payant. On paye tout maintenant, il n'y a pas de...
Mais du coup, l'argument écologique avancé par le gouvernement de l'augmentation des taxes pour pouvoir faciliter la transition écologique, l'incitation vers l'électrique, vous en pensez quoi?
Ben moi, oui, c'est faisable. Ouais, ça serait pas plus mal aussi. Si tout le monde resterait à l'électrique, ça serait bien aussi. Ça serait pas mal aussi, je trouve que ça serait faisable, ouais.
Alors la réaction d'Alain était assez symptomatique. Finalement, il y a cette sensation d'étouffement fiscal que l'on évoque dans tous les propos que l'on avait entendus, mais aussi la volonté de réaliser cette nécessaire transition écologique, mais pas à n'importe quel prix. La perception du mouvement semble d'ailleurs encore assez favorable. On a un mouvement assez pacifiste pour le moment, sans gros impact, puisque les barrages étaient filtrants. L'opération a eu lieu hors des jours ouvrables, puisque c'était un samedi qu'a eu la première manifestation. Mais on sent chez certains une volonté de durcissement. Des dépôts de carburant ont ainsi été bloqués ces derniers jours, pas assez longtemps pour faire craindre une pénurie malgré quelques stations à sec, y compris dans notre région, et des blocages sont toujours en cours en semaine. C'est le cas notamment à Vendin-le-Vieil, Jean-Philippe.
Oui, tout à fait, où à Vendin-le-Vieil l'atmosphère au départ se voulait également apolitique et puis citoyenne. Il n'aura pas suffi de beaucoup de minutes pour se rendre compte qu'elle était très marquée politiquement également. Écoutez cet échange entre des autres automobilistes et certains gilets jaunes à Vendin-le-Vieil.
Nous, on travaille, on a tout le matériel, on nous attend, et puis on nous attend.
Mais on sort,
s'il
ça
vous
va
plaît, on est gentil.
Mais moi, j'en ai marre que Macron, il prend tout.
Mais j'en ai rien à foutre, moi, je vais aller bosser,
rien à foutre,
je vais aller faire mon argent.
Mais quand Macron va dire que l'essence, elle va baisser, vous allez être content d'aller faire votre plan dans votre pareil.
Allez.
Bah non, on va pas vous casser, je vous accorde deux minutes.
Avance, là. Avec une mentalité comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge.
Franchement,
mon Dieu.
En plus, c'est orange.
Non, c'est pas n'importe quoi, monsieur.
Bah non, c'est pas n'importe quoi, monsieur, vous allez être content des bénéfices.
Si demain on n'arrive pas à rien faire, monsieur, vous lui laissez la porte ouverte.
Voilà donc cette réaction à chaud sur le rond-point de Vendin-le-Vieil qui montre aussi que le mouvement n'est pas toujours aussi apolitique qu'il n'y paraît, et que aussi également le regroupement, les regroupements spontanés font se rencontrer, comme je l'ai dit au tout début de l'émission, des gens d'horizons et de convictions politiques très différentes, ce qui peut d'ailleurs parfois amener à des conflits internes au sein de ces regroupements, hein.
Oui, Jean-Philippe. Et puis, vous avez aussi réagi nombreux sur notre page Facebook ces derniers jours. Je vous cite quelques réactions qui sont assez symptomatiques de la perception du mouvement des Gilets jaunes. Les pour, les contre, bien sûr. On cite par exemple Francis qui nous dit « Quelle époque, des ouvriers vont bloquer et punir d'autres ouvriers parce qu'ils veulent punir un gouvernement ?» Pascal du 62 nous dit « J'ai disposé mon Gilet jaune en soutien, mais le mieux c'est de manifester à Paris devant l'Elysée. Se bloquer les uns les autres n'est pas la bonne solution, mais j'avoue que le mécontentement est à la hauteur du yo-yo voulu par le gouvernement. Je donne, je prends. Drôle de courbe. Allez expliquer à un enfant, tu peux manger le bonbon dans un paquet, mais il faut que tu en remettes un dans l'autre paquet. » Et puis, il y a également Lily qui dit « On ne lâche rien, on en a marre d'être pris pour des vaches à lait. Battons-nous pour nos revendications haut et fort. » Alors, ce durcissement du mouvement est-il à deux doigts de passer à la radicalisation du mouvement? Les Gilets jaunes, demain, bloqueront-ils de manière plus significative l'économie? C'est assez difficile à prévoir en raison de l'inorganisation de ce mouvement, mais on peut aisément supposer qu'un durcissement risque d'entraîner une réaction négative au sein d'une partie de la population. Alors, autre point d'inquiétude concernant ce mouvement des Gilets jaunes, ce sont les débordements et on n'en soupçonne pas certains parfois. Alors, il y a eu plus près de 300 personnes qui ont été interpellées avec de nombreuses gardes à vue. Les blessés, on a évoqué les chiffres tout à l'heure, plus de 500 blessés. Et puis, des dérapages qui sont peut-être en lien aussi avec certaines convictions politiques. Racisme, homophobie, islamophobie ont été recensés sur certaines manifestations. Des insultes à caractère raciste, homophobe, islamophobe à l'encontre d'automobilistes, de journalistes et même d'un élu. Par exemple, à Cognac, une femme automobiliste a essuyé des insultes racistes à base de, je cite, « Dégage, rentre chez toi, les histoires de noirs, on ne veut plus en entendre parler, retourne dans ton pays, etc. etc. » Une scène qui a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, entraînant à juste titre une vague d'indignation contre ces propos. Et puis, un couple homosexuel a été également menacé, un couple avec un élu du côté de Bourg-en-Bresse. Alors, on va à présent s'intéresser au mouvement alternatif. Quelle solution en effet trouver face à la hausse des prix du carburant ? Alors on l'a évoqué, hein, certaines agglomérations réfléchissent à la gratuité des transports, c'est le cas à Dunkerque. C'est en réflexion depuis peu à Calais, il y a le bus au niveau de service qui va arriver sur notre territoire dans le bassin minier.
On a effectivement évoqué la gratuité, mais où pour l'instant on n'en sait pas plus. Hein.
On n'en sait pas plus. La location de vélos électriques sur le territoire de la communauté de communes Flandre. C'est François, tu souhaitais ajouter une précision?
Oui, aussi au niveau du Douaisis, on est aussi en réflexion au niveau de la gratuité des transports. Voilà.
Alors, autre fait, la région vient d'annoncer qu'elle prenait en charge à hauteur de 50% les abonnements TER du mois de décembre. Alors, cette initiative a aussi pour but d'atténuer les effets des récentes grèves SNCF, mais on ne peut que souligner ce coup de pouce fait pour la mobilité des travailleurs de notre région. De son côté, justement, la région avance qu'il s'agit d'une mesure pour faciliter le pouvoir d'achat des usagers et qui vise également à réduire les embouteillages routiers. Reste que ce mouvement, on l'a dit, pour durer, devra sans doute trouver des appuis organisationnels de partis ou de syndicats. Alors, on n'aura pas le temps malheureusement de vous passer une réaction d'une cycliste que j'ai interrogée à Auchy, mais simplement elle faisait partie de l'association Droit au Vélo. Elle m'expliquait qu'elle travaillait sur Béthune et que les conditions pour pratiquer le vélo en toute sécurité ne sont pas réunies, donc il n'est pas toujours facile effectivement de renoncer à sa voiture. Et même si la volonté de transition écologique ne peut pas être mise de côté en ces périodes de réchauffement climatique visible, je vous cite un chiffre tout de même relevé dans l'Humanité dimanche de la semaine du 15 au 21 novembre, est interrogé un marin pêcheur diepois qui explique qu'une sortie en mer représente pour lui 750 litres de carburant par jour. Ça n'est pas rien, vous l'imaginez, en termes de pollution potentielle. Alors, pour tenter de contrer cela, outre les prix du carburant, on voit également apparaître l'existence des gilets verts portés par un café culturel de Seine-et-Marne qui prône le développement et la gratuité des transports en commun. Le développement d'alternatives à la voiture individuelle, également la réouverture des petites lignes SNCF qui sont menacées, voire déjà fermées, la taxation du transport de marchandises aériens et maritimes, le développement des voies cyclables ou encore le développement de circuits courts entre consommateurs et producteurs. Une initiative qui a déjà recueilli, et c'est un indicateur à ne plus négliger de nos jours, plus de 15 000 j'aime sur Facebook. On avait d'ailleurs essayé de joindre les Gilets Verts pour cette émission sans succès. Sachez que la manifestation des Gilets Verts aura lieu, elle, le 8 décembre. Il est 18h52 et on va terminer, Jean-Philippe, très rapidement avec l'impact économique de ces blocages.
Oui, parce que de l'impact, il y en a. Alors, ce sont des chiffres qui sont loin d'être exhaustifs, mais qui ont été vérifiés. D'après La Voix du Nord, le samedi 17 novembre a été un samedi noir, très noir, pour Auchan et le groupe Mulier, qui a perdu 70% de chiffre d'affaires dans le Nord-Pas-de-Calais. On n'a jamais connu ça, c'est vraiment une première pour nous. C'est ce qu'explique la direction d'Auchan Retail France. Certains magasins étaient à moins 80% de chiffre d'affaires et à l'échelle du pays, c'est 48% de moins pour le groupe. À Maubeuge, c'est la production qui s'est arrêtée à MCA, Maubeuge Construction Automobile, située dans la zone de Grévaux-les-Guides, à Fény. Les gilets jaunes ont empêché les camions d'entrer et donc l'approvisionnement pour la fabrication des véhicules. Du côté plus proche de nous, c'est le Hurricane Bar, hein, dans la zone commerciale Lens 2, qui a dû fermer samedi et qui n'a pas pu accéder à son bureau pour les réservations. De son côté, Cora aurait perdu 90% de son chiffre d'affaires sur la zone commerciale. Et enfin, le samedi, ce sont 50 gilets jaunes qui se sont mobilisés, 110 gilets jaunes mobilisés et une soixantaine qui ont bloqué le rond-point de l'As du Nord et le supermarché Leclerc, ce qui a eu comme conséquence la fermeture des magasins. Voilà.
Alors c'est la fin de ce localement plus exceptionnel consacré à la mobilisation des Gilets jaunes. Nous vous remercions bien sûr de l'avoir suivi. Nous remercions également Aurélie qui a témoigné au cours de cette émission. Merci également à Henri, animateur de Sport Plus, Kevin, Céline, nos services civiques qui ont aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Philippe et à François qui l'ont co-animé avec moi et à Lucas qui était présent pour prendre vos messages au standard ce soir.
Voilà, et puis on vous donne bien sûr rendez-vous pour une prochaine émission spéciale dans quelques instants. C'est la rediffusion du Mort Plus.
Oui, et puis ce sera suivi de 120 minutes avec Ed. L'info locale, elle, revient demain avec votre matinale plus. Dès 8h, je serai au rendez-vous, bien évidemment.
Très bonne soirée à toutes et à tous.
À bientôt.
Si vous écoutez ce message, c'est que vos futurs clients l'écoutent également.